France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Dans 5 jours, ce sera le 21 juin. Voici cette semaine une série sur l'été, ses réalités diverses, mais aussi les représentations, les fantasmes dont l'été fait l'objet. Les grandes vacances, c'est toute une affaire dans nos vies et d'abord dans nos vies d'enfants. Comment se fait-il que ce temps-là fasse tellement grandir, mûrir les enfants et les adolescents de l'aveu de tant de familles et d'enseignants? Que se passe-t-il pour que les semaines d'été et leurs aventures à elles forgent des souvenirs, souvent pour toute la vie? Voir que chaque été, quelque chose de ces étés enfantins reviennent nous hanter. Et je ne parle pas que de bons souvenirs, il y a aussi de sourdes inquiétudes dans l'été, voire des angoisses, dont nous parlerons tout autant dans cette série, cette semaine, que des délices de la chaude oisiveté. Et puis l'été est devenu politique aussi, à coups de sécheresse et d'incendies qui semblent toujours plus virulents et alimentent les conversations. Oui, ce temps long de la belle saison, souvent très attendu, quitte justement à décevoir parfois, est un véritable objet littéraire, cinématographique, politique et finalement philosophique tant il donne à réfléchir. Bonjour Céline Flécheux.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Vous êtes professeure de philosophie de l'art et d'esthétique à l'université Paris 8. Vous avez publié en 2023 aux presses universitaires de France « Revenir, l'épreuve du retour », ce qui va beaucoup nous inspirer ce matin pour cette émission, car c'est parfois l'ensemble de nos états intérieurs de la fin août, ce moment où nous revenons au temps ordinaire, qui nous fait prendre la mesure de ce qu'a été l'été. Bonjour Louis Létoré.
Bonjour.
Vous êtes un acteur de l'éducation populaire, vous dirigez la maison de Courcelles, qui organise des séjours d'été pour enfants et adolescents depuis 1982, à Courcelles-sur-Aujon, dans la Haute-Marne. Vous êtes l'héritier de certaines pensées éducatives qui depuis longtemps marquent tout un pan des fameuses colonies de vacances, les pensées de Maria Montessori, de Célestin Freinet, ou encore du pédiatre polonais Janusz Korczak. Vous nous raconterez ce qui se passe dans vos colos d'aujourd'hui. Et bonjour Jean-Marie Bataille.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste justement des théories de l'éducation et des colos, des colonies de vacances. Vous enseignez à l'université Sorbonne Paris Nord. À quoi servent les colonies de vacances? C'est le titre d'un de vos ouvrages publiés en 2018. Et la maison de Courcelles est d'ailleurs l'un de vos objets de recherche. Cela nous permettra de réfléchir en profondeur à ce temps de l'été pour la jeunesse dans divers milieux sociaux.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été qui depuis s'en est allé.
Brigitte Bardot, Indétrônable, La Madrague, 1963. Cécile Flécheux, c'est quand l'été s'en est allé que nous prenons la mesure de ce qu'elle était?
Oui, c'est probablement quand la chose est passée que nous réalisons ce que nous venons de vivre. Mais il y a quelque chose dans le départ en vacances qui est lié au retour de vacances. Disons que départ et partir et revenir dessinent une espèce de couple dont on pense a priori qu'ils sont finalement assez symétriques, mais qui n'est absolument pas symétrique. Déjà dans le départ et le départ en vacances, par exemple chez les enfants, il y a une très grande forme d'anticipation. Une anticipation qui fait qu'on a l'impression de voir la destination de voyage au bout de notre rue, et donc quelque chose de lointain et rapproché. Au retour, au contraire, on cherche à retenir longtemps le temps, on cherche à faire en sorte que le temps n'advienne pas. Enfin, on n'a jamais vraiment envie de revenir de vacances. Et là se pose une question tout de même fondamentale. Pourquoi est-ce qu'on reviendrait de vacances? Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas dans ce temps de la vacance, dans ce temps de la disponibilité, dans ce temps où on sent qu'on est dans le temps, où on prend le temps, dans ce temps où notre corps redécouvre les dimensions de son insertion dans le monde? Pourquoi est-ce que ce temps-là doit s'arrêter? Voilà, c'est une question fondamentale.
Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens pensent à la fin dès le début? C'est-à-dire se retrouvent à déjà anticiper que tout, comme dit le dicton, les bonnes choses ont une fin. Ou bien, vous pensez que c'est un moment singulier dans l'année où on arrive à oublier que ça va finir?
Ben j'espère déjà. Je crois qu'on souhaite tous vraiment se détendre, cesser l'activité du travail contraignante. Mais disons qu'il y aurait peut-être deux rapports à cette temporalité. Le rapport de l'enfance à cette temporalité qui est vraiment complètement dégagé de tout impératif. Et là, je pense que les enfants sont capables de s'immerger totalement dans ce temps des vacances. Tandis que pour l'adulte, on a évidemment tout à l'esprit, les problèmes de rentrée, les problèmes d'inscription. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui ne se vit pas de la même manière quand on est enfant et adulte. Et il y a sûrement une très grande nostalgie quand on est adulte à se souvenir de ces vacances d'été.
Alors, j'ai encore des questions à ce propos. Le problème, c'est aussi que le temps ne passe pas de la même manière pour un enfant de 5 ans, de 10 ans, pour un ado de 15 ans et pour un adulte et aussi pour quelqu'un de vieillissant. 2 mois, parfois moins, dit-on, il va falloir qu'il y en ait moins, il y a beaucoup de réflexions là-dessus sur le temps des grandes vacances, mais disons 2 mois, et longtemps ça a été encore plus que 2 mois. C'est énorme pour un enfant. C'est-à-dire que effectivement, pour eux, c'est une autre vie qui commence, ils n'arrivent pas vraiment anticiper ce qu'ils seront dans 2 mois ou 2 mois et demi, c'est vrai ?
Oui, oui, il y a effectivement dans ce temps des vacances, il y a quelque chose du temps qui est suspendu, qui est retenu, qui est allongé. Et quand on est enfant, le temps s'écoule avec lenteur. Et cette lenteur permet alors l'intensification des sensations. Et c'est peut-être ce qui se passe pendant ces vacances d'été où les enfants vraiment sentent intensément leur rapport avec le monde et ont des expériences qui font qu'ils entrent en contact avec la matière du monde. Et donc c'est un moment très particulier où on a le sentiment que, disons, l'épanouissement sensoriel va de pair complètement avec l'épanouissement et de la vie de l'esprit. Voilà, donc cette découverte du monde est complètement incorporée. Et je pense que c'est ce qui fait que ça ne peut être possible que par cette lenteur du temps qui advient.
Louis Letoré, quand même, tout de suite, je suis obligée de vous demander, les colonies de vacances, les centres aérés, ces moments, parce que les parents ne peuvent pas toujours prendre 2 mois de vacances, je suis certaine qu'aujourd'hui encore, vous assistez à des scènes d'angoisse d'enfants au début. Là, on a l'air de dire que le corps va s'épanouir, tout le monde n'attend que cela, une anticipation de l'oisiveté pleine de joie. Mais ce n'est pas comme cela que ça se donne toujours pour vous qui fréquentez des enfants, disons, début juillet.
Et c'est notre travail de travailler sur cette sécurité affective. On parle de la sécurité affective des enfants, mais on parle aussi celle des parents. Elle est forcément liée. C'est-à-dire que nous, dans des formes de pédagogie de liberté, où on laisse les enfants en libre choix, libre circulation, on se doit de préparer en amont l'arrivée des enfants et aussi les parents, pour les préparer à des pédagogies qui engagent leurs enfants dans un espace de temps, de vie, où ils deviennent acteurs de leur temps de vie. Donc oui, on les anticipe ces moments, mais ils existent quand même, le moment de la séparation. Mais soyons clairs, c'est plus le cas des parents que des enfants.
C'est vrai ?
Oui, oui, oui.
Les vraiment. Enfants qui pleurent dans le bus, début de la colo, ça n'existe plus.
Alors nous, à la maison de Courcelles, on fait le choix d'accueillir les parents à la maison de Courcelles. C'est-à-dire qu'on engage les parents à emmener leurs enfants, d'installer leurs enfants dans la chambre, de visiter la maison, tout est ouvert, pour qu'il y ait cette relation de confiance qui s'installe. Et on est persuadé que quand les enfants sont en confiance, ben, les parents le sont. Mais il faut d'abord aussi convaincre les parents que des maisons, des temps de vacances sont utiles et nécessaires pour leurs enfants et que c'est à eux de faire l'effort de laisser partir leurs enfants.
Voilà. Puis reste cette question latente, c'est que peut-être dans certaines familles, c'est plus agréable d'aller en colonie que d'aller dans la famille. Toutes les familles ne vont pas toujours très bien. Il peut y avoir de l'angoisse à aller passer 3 semaines chez mamie, papy. C'est pas fort. Et puis, il peut y avoir un bonheur absolu d'être l'enfant de papy et mamie pendant 3 semaines. Tout existe.
Tout existe. Et je rajouterais, si je me permettrais aussi, et à l'école, comment ça se passe? Nous, nous inscrivons le temps de colonie de vacances comme un moment de rupture par rapport à l'école. Un moment de rupture par rapport à ce qui se passe dans la famille. Rupture ne veut pas dire opposition, mais simplement que c'est un temps différent où l'enfant va se construire un temps à lui, qui n'est pas ce qui se passe à la famille, qui n'est pas ce qui se passe à l'école. C'est une page blanche. C'est-à-dire qu'il rencontre de nouveaux amis, il rencontre de nouveaux adultes, et souvent il s'autorise à se construire différemment sur un temps de vacances.
On va revenir évidemment à aux grandes idées éducatives qui président à cette maison de Courcelles que vous dirigez, une colonie de vacances un peu particulière. Alors Jean-Marie Bataille, vous connaissez bien les colonies de vacances, et pas seulement celle-ci. Ces moments du début, est-ce que vous pensez qu'historiquement ils ont changé ? Aujourd'hui, il y a plus d'appétence des enfants pour aller vivre ensemble quelques semaines ou quelques jours loin des parents qu'auparavant, ou bien il y a une espèce d'éternel enfantin et adolescent qui est que à la fois c'est joyeux et c'est dur, beaucoup de problèmes se posent au début, l'anticipation est aussi de l'angoisse, enfin il y a quelque chose d'intemporel.
C'est intéressant ce que vient de dire Louis justement par rapport à ça, c'est... Il évoque l'idée que les parents peuvent venir sur place, faire le passage, laisser l'enfant. En fait, dans le temps, dans d'autres époques, après la Seconde Guerre mondiale, les activités de loisirs étaient en continuité avec les activités de vacances. Par exemple, les patronages accueillaient les enfants et puis après, connaissant les enfants, ils les aidaient à faire le passage vers la colonie de vacances. Là, depuis les années 80, on a assisté à une vraie transformation où, en fait, on achète sa colonie de vacances sur catalogue, sur Internet. Et donc, on n'a quasiment pas de rapport direct avec l'organisateur au moment où on envoie son enfant. Donc, ça crée, du coup, un saut dans le vide assez considérable et qui est parfois assez compliqué.
Donc, c'est plus difficile, c'est finalement, plus difficile. Ce choix à distance. Enfin, ce que ça génère.
C'est ça que ça génère. C'est effectivement ce choix à distance. On n'a pas on n'a pas les réponses forcément à toutes les questions qu'on se pose. On n'a pas tous les éléments sensibles de cette relation qui vont être utiles pour l'enfant une fois qu'il va être parti. Ce moment de discussion, il fonde aussi quelque part le moment de la colline, enfin le temps de la colonie de vacances derrière. Il y a une relation intime entre ces deux aspects du départ en vacances.
Nous vous avons épargné Pierre Perret, les colonies de vacances, vous êtes content, hein, même si on l'aime bien, mais bon, c'est tellement entendu. Mais par contre, je vais aller vers les stéréotypes tout de même, puisque c'est toujours très intéressant, les stéréotypes. Et puis, il y a toute une image des colos, et peut-être totalement forcée. Je vous propose d'écouter un son, pour commencer, de 1956. C'était dans l'émission Jeunesse Magazine de la RTF, écoutez.
Plus que deux mois et ce sera les vacances. Ces vacances qui commencent toujours par la foule des quais de gare, les gens qui se bousculent, les valises qui encombrent, les adieux, les dernières recommandations de ceux qui restent. Tu n'as rien oublié ? Surtout ne fais pas de bêtises, écris-nous ! Et puis, il y a le geste du chef de train qui a la bonne idée d'arrêter les conversations et les effusions en donnant le signal du départ à la grosse motrice. Alors on file vers le grand air, le soleil, la santé, en laissant toute la poussière de l'année derrière soi. Mais vous, avez-vous songé à tous ceux qui ne partiront pas, qui continueront à traîner dans les rues des grandes villes ? Vous ne voulez pas être de ceux-là. Alors dites à vos parents qu'il est temps de vous faire inscrire. Les colonies de vacances, qu'elles soient à la mer, à la montagne ou à la campagne, vous ouvrent les portes de la joie et du plein air. De jeunes moniteurs et monitrices sont là pour participer à vos jeux. Avec eux, la culture physique cesse d'être une suite de mouvements sans intérêt. Du gazon pour faire des culbutes, de l'oxygène pour nettoyer ses poumons, de la bonne humeur, de bons camarades. Voilà l'atmosphère de la colonie. Ajoutez à cela tous les plaisirs que l'on prend avec l'eau, qu'elle soit douce ou salée, et l'on comprend pourquoi on ne trouve plus de place pour partir lorsque, par négligence ou hésitation, on s'y prend trop tard.
Oh là là, le monde merveilleux, avec la musique qui va avec. En fait, c'est 1959, pas 56, sur la RTF. Et puis aujourd'hui, alors, comment on raconte les colos d'aujourd'hui ? Comment les cinéastes, documentaristes nous les racontent ? C'est peut-être un peu différent. Écoutez cet extrait de L'île au trésor, un film documentaire de Guillaume Braque de 2018.
Vous avez quel âge ?
14 ans.
Moi, j'ai 13 ans.
13 ans, 15 ans, 11 ans.
C'est pas possible.
Comment ça, c'est pas possible?
Parce que vous êtes des mineurs.
On n'est pas parti en vacances, monsieur. Monsieur,
écoutez-moi. J'ai dit vous êtes des mineurs.
Attends, mais non, c'est vraiment la galère. On ne peut pas passer.
Mais c'est ça la galère.
Écoute-moi bien.
Oui.
Nous sommes des adultes.
Oui. C'est nous qui décide ici, pas les enfants.
C'est moi qui décide ici.
Non, c'est pas toi qui décide. Parce que nous, on est sécurité ici. Quand on dit oui, c'est oui. Non, c'est non.
Donc,
même
on enlève
les chats,
on les cache là,
et
on va dans
le... Non, venez, c'est ici, nous. Ah, moi, je ne fais pas, c'est chaud.
S'en fout, ici, les gars. Ici.
Et la sécurité, avant de jouer.
Ah, moi, je peux baigner avec une short, les gars.
Et la sécurité, on va aller en prison.
Non, les shorts, on les cache. Les shorts, on les cache. On les met là, les shorts.
Vas-y.
Je parle avec moi, moi.
Après, non, on remonte, on fait genre comme si de rien n'était. Eh, faites gaffe, moi j'y vais pas. Hein.
Faites attention, c'est trop grand.
Ouais, madame, merci.
On fait quoi? Vas-y, vas-y.
On est des professionnels.
Hop,
vas-y. Vas-y, saute. Bah, saute, frère.
Mais non, saute pas.
Eh, quoi, il est sauté.
Oh, il est sauté. Oh,
le tarcon.
Il est sauté.
Saute, 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 vas-y, elle est bonne. Vas-y.
Elle est comme ça. Oh, mais
tout. Oh, vas-y. Viens, assis.
Jean-Marie Bataille. Un film documentaire qui il y a moins de discours, moins de musique, plus des voix d'enfants, des ploufs dans l'eau, et surtout cette question, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, et jusqu'à quel point je peux obtenir la jouissance de l'interdit. C'est une bonne question pour les colonies de vacances.
Oui, surtout qu'on a évoqué au début de l'émission des histoires, enfin la question de la liberté, donc ce temps qui libérait quelque chose. Ça pose des questions assez multiples, cette...
Je vous laisse y aller avec vos mots et votre expérience, ainsi que vos théorisations.
Oui. La question, elle est comment les règles, les lois qui vont fonctionner pendant la colonie de vacances sont établies, dans quel endroit, avec qui. L'élément pour moi le plus important, c'est qu'il y ait un vrai travail d'élaboration des règles et des lois avec les enfants, pour qu'ils puissent prendre prendre en considération toutes les conséquences de leurs actes. Et c'est dans cet accompagnement qu'on peut imaginer faire quelque chose de collectif. Et il faut signaler, parce que ce sonore vient le dire en creux, que souvent les enfants des quartiers populaires sont mis ensemble dans des colonies de vacances très particulières, ce qu'on appelle des séjours de la politique de la ville en général. Et on a tendance à y jouer un rapport à la règle un peu sur le sur-règlement, une sorte de contrainte qu'on voudrait mettre autour de ces enfants-là. Ça pose vraiment beaucoup de questions pour qu'eux puissent vivre cette expérience profonde des vacances.
Donc la question de l'interdit et de la règle, apparemment c'est quand même une assez bonne entrée au sujet de la vie des vacances. Elle se pose différemment aujourd'hui, et notamment dans des milieux populaires, que dans les colonies plus bourgeoises des années 1950-1960. Moi, je pense par exemple au Petit Nicolas, où il y a eu des films et puis tous ces écrits, évidemment, où le sujet, c'est est-ce que j'ai le droit de crucifier un lézard sans horrifier maman. Enfin, il y a une espèce de quelque chose de mignon dans la transgression. Là, c'est pas un problème de mignon ou de cruauté ordinaire, c'est une question qui touche... aux règles dans le temps qui n'est pas celui de l'été. Est-ce que les règles dans le temps de l'été vont être différentes des règles habituelles? La question de la règle et de l'interdit est centrale pour ces enfants de milieux plus modestes.
C'est vraiment une question fondamentale et c'est une question éminemment politique. Je pense à la série de Steve McQueen, Small Axe. On voit bien qu'il y a des modèles d'éducation particuliers qui sont proposés pour des enfants qui habitent les quartiers populaires. Et donc, du coup, il manque quelque chose, une perspective d'intégration positive de ces enfants-là dans un monde plus large. Quand on fabrique les règles, où les adultes sont impliqués dans la fabrication des règles, évidemment, c'est pas des règles que les enfants décident tout seuls dans leur coin. On aide ces enfants-là, on leur dit plutôt... Vous avez votre place dans la collectivité. Parfois, vous pouvez avoir des difficultés avec ces règles-là, mais c'est pas grave. Il y a des espaces pour les réfléchir, pour les améliorer, etc. Ce qu'a fait Corsac, on y reviendra peut-être, et ce qu'on peut trouver aussi à la maison de Courcelles, c'est des espaces dans lesquels il y a une réflexion collective autour du vivre ensemble. On l'élabore, on le construit. C'est vraiment une mini-société. Ça remonte même à historiquement à un auteur américain qui s'appelle William George, qui va inventé les Junior Republic, c'est-à-dire il emmenait lui les gangs de New York à la campagne faire des colonies de vacances. Et pendant ces séjours-là, ils vivaient dans une société mini avec un tribunal, un parlement pour fabriquer les lois, une justice, etc. Et voilà. Et c'était ça, c'était un quelque chose d'extrêmement fort dans l'expérience que vivaient ces jeunes des gangs américains.
Bon, j'ai l'impression que c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle qu'on a vraiment inventé les colos modernes. Je ne me trompe pas?
Alors,
est-ce que, donc vous allez tout ça nous le préciser, mais j'aimerais surtout savoir si d'emblée ça a été pensé plus singulièrement pour les milieux dits défavorisés, ou est-ce qu'il y avait au contraire une vision bourgeoise d'emblée de la colonie de vacances, ou bien mixte? Comment on a réfléchi à ça? Disons, oui, hein, je vous lance le 19e siècle, mais vous amendez comme vous voulez.
Oui, je ne vais pas trop revenir sur les débats autour des dates de démarrage. On dit que c'est 1870, la première colonie, Fairyan Colony du pasteur Bion. C'était d'abord des colonies avec une visée au niveau de la santé. L'enjeu premier, oui, c'était la santé. Donc, la dimension de qui était concerné, c'était en rapport avec les problèmes de santé que pouvaient avoir les enfants. Donc, particulièrement la tuberculose. Ensuite, là, ce qu'on est en train d'évoquer, c'est à un autre moment dans l'histoire, on est plutôt après la Seconde Guerre mondiale sur des questions éducatives. La colonie de vacances va se déplacer vers les questions éducatives. Et d'ailleurs, jeunesse et sport, le ministère de la jeunesse et des sports est un ministère qui va se créer juste après la Seconde Guerre mondiale et va être quasiment un service public des colonies de vacances, mmh, et qui va essayer d'emmener le plus d'enfants possible avec une certaine idée de la mixité, mais en réalité, on n'a jamais vraiment tout à fait existé. Et on a au cours du temps ensuite une séparation des publics, vraiment. Les familles bourgeoises ne vont pas nécessairement se mélanger avec les enfants des classes populaires. C'est dommage, dans le fait que c'est aussi, ça peut être ces moments-là, un moment fort de construction de la société. C'est-à-dire qu'on a très peu d'occasions, puisque quand on va à l'école, on va vivre une expérience de collectif dans un endroit particulier, en fonction de là où on habite. La colonie de vacances peut être l'occasion de réunir des enfants qui viennent de milieux très divers, et ça peut être une expérience tout à fait étonnante, riche, particulière, qui aide à fabriquer du collectif et une société derrière.
Louis Létoré, alors cette maison de Courcelles que vous dirigez, quelle sorte d'enfants, de quel milieu viennent-ils ces enfants que vous recevez? Et puis, quel est votre héritage pédagogique et théorique?
Alors, à la maison de Courcelles, on accueille des enfants de 4 à 25 ans, parce que où s'arrête l'enfance aussi, sur la question des animes qui animent nos séjours. Ils viennent de toute la France, et il y a un vrai travail d'ingénierie pour essayer de trouver cette mixité. Cette mixité de territoires, des enfants qui viennent de territoires différents, ruraux, urbains, qui viennent aussi de milieux sociaux différents, avec des partenariats, par exemple, avec France Terre d'Asile, avec les Restos du Cœur, avec des services de réussite éducative de certaines villes, avec des familles lambda qui s'inscrivent directement avec nous. Tout un travail d'ingénierie qui se fait par nos équipes salariés et bénévoles qui vont chercher les publics. C'est-à-dire qu'on n'attend pas que les enfants y viennent, il faut aller les chercher. Mmh. Ça amène à lever des freins. On parlait de freins de sécurité affective, mais on peut parler aussi des freins de mobilité, des freins financiers, qui aujourd'hui font que, même si on n'est pas dans un objet de marché, on est quand même dans une réalité financière qu'aujourd'hui, une colonie coûte plus cher, de plus en plus, parce qu'on demande de professionnaliser, parce qu'on demande de gérer les bâtiments de plus en plus de manière sécuritaire aussi. Donc ça a des coûts, ça se répercute forcément sur le prix des séjours. Notre héritage, c'est le personnalisme communautaire, depuis maintenant plus de 45
ans.
Donc Emmanuel Mounier, oui.
Alors c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, à penser la personne.
C'est la personne.
Il y avait une dimension religieuse.
Alors, il y a une dimension spirituelle, je dirais.
Oui.
Alors, parce qu'en effet, dans le courant du personnalisme communautaire, il y a eu un détachement aussi pour... nous, en tout cas, on ne revendique pas une religion dans le personnalisme communautaire. On va dire qu'on croit en la personne. On croit en la personne, dont l'enfant, dont un salarié en transition vers l'emploi durable, parce qu'on a aussi un chantier d'insertion à la maison de Courcelles, un bénévole, un salarié, qui est compétente pour organiser et se retrouver en situation de cogestion de cette maison. Donc c'est-à-dire que c'est à l'organisation de s'adapter à la personne et non à la personne de s'adapter à l'organisation. De ce point de départ, laissons les enfants libres de circulation et le libre choix nécessitent une vraie organisation d'équipes d'adultes, un cadre qui permet aux enfants de se retrouver en situation de liberté. Alors, pendant des vacances, des enfants de 4 ans n'auront pas le même cadre englobant que des enfants de 12 ans, par exemple. Il y a une autre présence d'adultes. Et c'est la posture des adultes qui est hyper intéressante et importante dans ce type de pédagogie. Quand est-ce qu'on laisse faire ? Quand est-ce qu'on fait avec les enfants ? Et puis surtout, qu'on fait à la place des enfants, parce qu'il se peut qu'on fasse à la place des enfants.
Donc, il y a, diriez-vous, un syncrétisme des références, des points d'appui théoriques, aussi bien Montessori que Célestin Freinet, que quelqu'un qui est parfois moins connu, le pédiatre polonais Janusz Korczak, c'est-à-dire ?
Alors, par exemple, chez Montessori, on se distingue très clair de la pédagogie Montessori qui se déroule dans un temps scolaire, dans un temps de vacances. Néanmoins, on va chercher chez Montessori cette question du prendre soin. C'est une femme médecin qui a amené un regard auprès d'enfants particuliers que personne ne voulait, en les observant et en adaptant une pédagogie à son observation. Jean-Marie nous a accompagnés sur une recherche-action qui nous a permis de mesurer qu'on s'inscrivait dans une continuité de la pédagogie Montessori sur un temps de vacances, parce qu'on observe les enfants, mais parce qu'aussi on outille notre pratique pour accompagner l'enfant selon son autonomie. Notre ambition n'est pas de rendre l'enfant plus autonome, on est sur un temps de vacances. On n'est pas sur un temps éducatif. C'est la
Donc, vous distinguez les enjeux éducatifs de des vacances.
Absolument.
Il faut leur lâcher un peu la tête, ça ?
Absolument. On va faire le parallèle. Quand vous partez en vacances, est-ce que vous partez avec tous les bagages de votre travail qui vous oblige à penser tout ce que vous faites ? Je ne crois pas. Pourquoi on demanderait aux enfants, sur leur temps de vacances, de rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fait à l'école ?
Mais ça marche seulement si les parents sont déjà dans un état d'esprit.
Absolument. Absolument.
Singulier.
La colo s'appelle « Je prends le temps ». Et elle est expliquée aux parents dans ce sens. C'est « Donnons la possibilité aux enfants de vivre des vacances ». Donc c'est vraiment important pour nous. Et là où il faut défendre, il faut être militant sur ce type de pratique, parce que le champ nous glisse vers du tourisme solidaire, de l'éducatif. On nous donne des ambitions que nous ne souhaitons pas. Notre ambition, c'est de prendre soin des enfants pour qu'ils puissent vivre des vacances qu'ils auront choisies, et pas une projection de l'adulte qui décide que la situation est éducative. Pour nous, sur un temps de vacances, la situation est éducative quand l'enfant l'aura choisi.
Alors, on va écouter un extrait de Janusz Korczak. C'est un texte de 1919, « Comment aimer un enfant ?», où il évoque notamment ses expériences en colonie de vacances, en 1907. Alors, il était polonais, Korczak. Par ailleurs, c'est un personnage extraordinaire. Il a eu une histoire d'enfance très dure, un père très malade qui a fini par se suicider. Il a vraiment de mauvais souvenirs d'enfance. Il est devenu pédiatre. Et puis, il pensait que peu d'adultes savent entendre les enfants. Et puis, il s'est retrouvé dans le ghetto de Varsovie, juif, avec beaucoup d'enfants. Et en 1942, plusieurs centaines de ces enfants ont été emmenés en déportation au camp de Treblinka, un camp de la mort. Et il paraît qu'on lui a laissé le choix de se sauver lui-même. Il a refusé, il les a emmenés et il est mort lui-même à Treblinka. Écoutez cet extrait de « Comment aimer un enfant ».
Le soir, quand ils étaient tous déjà sagement couchés, je suis venu leur raconter une histoire dont les héros étaient les garçons de l'année passée. Je vais vous parler des garçons qui ont dormi dans les lits numéro 5, 11, 20 et 30. Le premier était un garçon très gentil. Le second se montrait toujours mécontent de tout. Le troisième enfant, difficile, a fait des progrès étonnants. Le quatrième n'arrêtait pas d'avoir des problèmes. Une fois, il a mouillé son lit dans la nuit et tous les autres se sont moqués de lui. Mais après, ils ont vu combien il était faible et maladroit et ils l'ont pris sous leur protection. Où sont-ils aujourd'hui ? À quoi pensent-ils ? Cette histoire, tirée de la vie des quatre garçons, avait un but didactique. Elle devait leur faire entrevoir les activités de la journée et quelques-uns des problèmes auxquels ils risquaient de se heurter. Je leur ai expliqué ce qu'il fallait faire au cas où ils auraient peur la nuit ou se réveilleraient trop tôt. Ils se sont endormis tranquillement, sauf deux d'entre eux. Le premier avait laissé chez lui son grand-père malade et pensait à lui. Le second n'arrivait pas à s'endormir parce que, à la maison, sa mère venait toujours lui souhaiter bonne nuit. Sur 38 enfants, c'était le seul qui avait besoin d'un baiser pour pouvoir s'endormir. J'ai pensé alors que lors de la première année de colonie, cet enfant si sensible aurait sans doute été fessé par erreur dans l'agitation et le désordre qui caractérisent cette première journée de vacances. Dès ce premier soir, j'ai trouvé le temps de prendre quelques notes. J'ai consigné dans un carnet mes impressions de ce premier jour de colonie, dans un autre, mes remarques concernant chaque enfant. J'ai eu quelques détails à noter sur plus de la moitié d'entre eux.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de l'été toute la semaine et des vacances d'été, notamment pour les enfants, de tout milieu. C'est notre sujet de ce matin. Je suis en compagnie de Louis Létoré, Jean-Marie Bataille et Céline Flécheux. Céline Flécheux qui ne perd rien pour attendre car nous allons revenir, si j'ose dire, à la question de l'été souvent qu'on aborde tellement mieux par la fin. À la fin de l'été, on se rend compte souvent de ce qu'a été l'été. On va y revenir. Mais là, nous parlons du pédagogue, pédiatre Korczak, qui analysait extraordinairement ce qui se passait dans les colonies de vacances au début du XXe siècle. Et observation certes, tendresse aussi, être capable de donner un baiser avant que l'enfant s'endorme. Et là, vous voyez bien, les uns et les autres, qu'on touche à des problèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, oui, quand c'est Korczak, c'est formidable, mais les parents peuvent-ils être sûrs que tous les affects qui vont se jouer entre les adultes et les enfants, car il va y en avoir dans une colo, pas seulement entre enfants, mais entre adultes et enfants, ces affects vont être parfaitement sains. Il y a beaucoup d'angoisse après toutes les découvertes qu'on a faites d'abus d'enfants. Comment aujourd'hui on peut retrouver un discours simple et rassurant, s'il le faut, sur ces sujets, Jean-Marie Bataille ?
C'est... Je voulais d'abord dire de cette capsule sonore que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué depuis que je l'ai lu. C'est ce passage où il évoque ces fameux deux enfants, celui qui pense à son grand-père et celui qui a besoin d'un geste particulier le soir pour s'endormir. Le premier parce que il y a une attention de Korczak à chacun des enfants. Et c'est quelque chose d'important dans ce moment de vie des enfants. C'est vraiment quelque chose qui va les marquer profondément, cette expérience des colonies de vacances. Donc c'est important que ces jeunes adultes qui sont autour de ces enfants-là soient dans des modalités pédagogiques qui va développer ce type d'attention à chaque enfant. Je dis ça parce que le risque qui existe, on doit essayer de le contrôler, évidemment, puisqu'on a maintenant un certain nombre de textes qui sortent, par exemple sur l'expérience des sanatoriums. On sait maintenant qu'il y a eu des problèmes d'abus sexuels dans ces espaces-là. On sait qu'il y en a eu dans le cadre de certain nombre de camps qui a été fait par les catholiques. Moi, ma conviction, c'est que il y a des modalités pédagogiques qui vont être plus favorables à un contrôle collectif sur les attitudes. C'est pour ça que j'ai construit une relation forte avec la maison de Courcelles. Parce qu'à Courcelles, c'est l'enfant qui décide ce qui va se passer. J'ai la conviction que ça permet probablement à chaque enfant de pouvoir s'échapper d'une relation avec l'adulte qui ne lui conviendrait pas. Il peut, à tout moment, aller voir un autre adulte, passer à un autre endroit. Il n'est pas bloqué dans une relation duelle. Le modèle de Korczak, qui est très inspiré de William George, où il y a un tribunal, etc., c'est un espace dans lequel les adultes peuvent être aussi interpellés par les enfants lors du tribunal, en disant, ben voilà, il y a eu tel comportement avec lequel je ne suis pas d'accord. Maintenant, il y a un modèle classique de la colo qui ne donne pas nécessairement ces possibilités-là et qui fait que l'enfant n'a pas forcément la possibilité de s'échapper, il n'a pas forcément la possibilité d'avoir un espace pour signaler qu'il y a quelque chose dans les comportements qui ne vont pas. Donc je crois que là, il y a un choix à faire collectivement, une attention en tout cas à avoir en se disant dans quelles conditions on met les enfants et à quelles conditions on s'assure que la relation va être la plus saine possible.
Donc il faut, si je vous comprends bien, et là j'interroge Louis Létoré qui dirige cette maison de Courcelles avec des colonies de vacances d'aujourd'hui, il faut que la question des règles et des interdits dont nous sommes partis atteigne aussi ce problème-là, le problème des affects et des abus.
Oui.
Sexuel ou même juste affectif, il peut y avoir un abus, quelque chose qui n'est pas sain à un moment donné, il faut que ça, c'est ça.
La question du consentement, est-ce que un anime qui tous les matins va passer la main dans les cheveux de la petite fille blonde parce qu'elle est mignonne, c'est pas une violence symbolique, par exemple, les nommer, les identifier, accompagner les équipes. Ça fait plusieurs années maintenant que la maison de Courcelles, au sein de son conseil de maison, qui regroupe des jeunes qui s'engagent dans la vie associative, ils sont plus de 60 aujourd'hui, a créé une commission violence sexiste et sexuelle pour former nos équipes d'animation, former les salariés permanents, former les bénévoles à prendre soin, à être attentif et surtout à savoir accompagner et recevoir la parole aussi. Identifier, protéger les victimes, et qui ait une position forte de l'association et que ces sujets doivent être abordés. Souvent, quand on présente nos colos, oui, on aborde la question de la pédophilie. On en parle parce que c'est...
Avec les enfants.
Et avec les parents aussi. Et de tout le cadre réglementaire qui est mis en place pour, en tout cas, les casiers judiciaires, les registres sur lesquels on doit inscrire les animes en amont des colos, mais aussi dans nos pratiques, comment on aborde ces sujets-là avec les enfants et avec nos équipes d'animation. On a des jeunes en construction aussi, où ces sujets ne sont pas forcément évidents à traiter entre eux, mais aussi avec les enfants, sans faire du prosélytisme non plus, à mettre des sujets forcément sur la table constamment.
On a vu un crapaud. Ouais. Et on a fait que râler aussi. Ça, ouais. On a mis de la musique. Et il s'est trompé plusieurs fois de chemin.
Ah oui. Non.
Si, une fois tu t'es trompé, tu nous as fait un aller.
Il dit non.
Ah, il nous a fait manger des fourmis vivantes, ça sentait le vinaigre, c'était horrible.
C'était trop bon, comme des chips au vinaigre.
Bon, vous savez que vous vivez un truc super sympa là, est-ce que vous vous en souviendrez?
Hier, on a fait du canyoning, c'était trop bien.
Canyoning?
Ouais, on a sauté d'une falaise de 7 mètres.
J'ai eu un peu peur pendant les 40 premières minutes, mais.
T'as eu peur tout le long.
C'était à Foncine le bas.
Foncine, d'accord.
Moi, j'ai failli mourir 3 fois, mais c'était. Ça va! D'habitude, je fais plus.
Moi aussi, j'arrivais plus à respirer là, c'était horrible.
On est là pour qu'ils passent un bon séjour, donc on leur apprend aussi la vie. Ils ont l'impression de souffrir, mais après, derrière, ils vont avoir des bons souvenirs en tête. Cool. Et puis,
oui, voilà.
On se plaint beaucoup, bien. Mais c'est trop cool.
T'entends.
Ouais, mais sinon, après, c'est bien. Moi, je le recommande.
C'était un reportage d'ici Besançon, du 26 août 2024, l'année dernière. Donc, quelle joie, quelle paix. Ils se chambrent en plus les uns des autres. On a l'impression que c'est l'idéal d'aujourd'hui. Mais je voudrais aussi qu'on aborde, dans cette fin d'émission, cette dernière partie, la question des affects, cette fois entre les enfants. Que ce soit la méchanceté, car moi je crois que ça existe souvent entre les enfants, ou que ce soit les émois les plus beaux et aussi les plus difficiles. Écoutez cet extrait du film « Nos jours heureux », écrit et réalisé en 2006 par Olivier Nakache et Eric Toledano.
Qu'est-ce que tu voulais me dire?
Bah...
Ça va, il s'est calmé, Steve?
Ouais, il s'est calmé. Justement, je voulais te parler seul à seul. Tu vois, depuis le début de la colo, tous les deux, on s'entend bien, on se marre bien avec toi et...
Ça va, t'as l'air bizarre.
Ah bon? C'est étonnant, je suis pas toujours très habile.
Mais tu vas y arriver.
Ouais, mais c'est un petit peu chiant quand même.
Oui?
Bah voilà. Tu me plais. J'ai envie de sortir avec toi.
Je sais pas quoi te dire. Je vais réfléchir.
Bon. Bonne nuit alors.
Bonne nuit.
Céline Flécheux, pour beaucoup de gens, je crois, l'été, c'est ça. C'est ce moment des premiers émois amoureux. Et j'ajouterais, mais peut-être vous me corrigerez, ce n'est pas que du bonheur. C'est dur aussi, non?
Oui, il y a effectivement quelque chose de dur, alors qui est bien montré dans l'extrait, où très souvent, effectivement, on associe ces moments décisifs de l'enfance à quelque chose d'un peu maladroit, d'une espèce d'embarras dans l'expression, dans le corps. Et ce qui était très beau dans l'extrait, c'était de voir comment cet embarras et cette maladresse étaient dépassés par le langage, par l'affirmation, par l'expression du désir. Voilà, c'est vrai que cette articulation dans l'enfance avec cette articulation entre le désir et le monde et cette découverte du monde, évidemment, peut apporter des tensions.
Je pense par exemple au film L'Effronté aussi avec Charlotte Gainsbourg. Mmh. Pour le coup, c'est le désir d'un garçon qu'on dirait aujourd'hui bien trop âgé pour elle. Mmh. Et donc finalement, c'est aussi l'idée qu'on attend une certaine intensité de l'été, quitte à se faire peur. Mais pour ça, il faut le temps long. Et c'est pour ça que c'est l'été. Il faut aussi que les enfants errent un peu. Alors, dans les colonies d'aujourd'hui, apparemment, on les laisse un peu errer. Peut-être moins dans les colonies d'avant. Mais ça peut aussi se produire quand on va chez ses grands-parents, qu'il y a des copains dans les autres maisons, c'est dans les clubs de plage, c'est pas que les colonies. Il y a une forme d'errance liée à l'excitation.
Oui, il y a une forme d'errance, mais cette errance, elle est fondamentale. Elle est vraiment fondamentale pour les jeunes enfants en devenir, justement, parce que c'est cette errance qui fait qu'alors les choses peuvent arriver. Alors des choses qui peuvent être bonnes, moins bonnes, réussies, moins réussies, mais quand même que l'expérience peut arriver. Ça me semble très, très important. Il y a peut-être aussi une autre forme d'inquiétude, quand on parlait des colonies de vacances, qui me semble très importante, qui est abordée par un texte de Benjamin.
Ah, merci de l'évoquer, je vous écoute.
Dans Enfance berlinoise vers 1900, qui est un texte qui s'intitule « Départ et retour », qui est un magnifique, un petit bijou. Et il évoque au milieu du texte l'inquiétude qui le saisit quand il part en vacances de savoir que son appartement reste vide. Voilà.
Oui.
De savoir que la poussière peut tomber sur le sol et qu'alors des voleurs pourraient s'introduire et laisser leur marque de pas. Et ça me semble aussi très profond. C'est-à-dire que être en vacances, partir loin, c'est aussi savoir qu'on laisse quelque chose sur place. Et cette place qu'on laisse, qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et il dit très bien, je aussi rentrerai chaque fois apatride de vacances.
Voilà, j'adore ce mot. Employé, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va rentrer apatride. Et dans ce mot, il y a une excitation, c'est certain. Mais il y a aussi un peu d'inquiétude.
Oui,
qui vais-je devenir.
Bien sûr, il y a ça. Et puis, l'effet incroyable pour le lecteur, qui est que c'est un texte qui ressemble à une espèce, écrit sous la forme du pressentiment, puisque lui-même va devoir quitter définitivement Berlin. Donc, c'est vrai que dans Enfance berlinoise, il y a toujours ces échos entre la vie de Benjamin et ce qu'il sent. Mais je pense que cette dissociation du soi qu'on laisse derrière soi dans cet appartement vide, du soi qui va au-devant de soi dans ses vacances, des parents, enfin, tout à coup, cette espèce de constellation qui s'ouvre, ça c'est aussi une découverte très, très importante de ce temps de vacances.
Louis Lettoré à côté de vous, qui dirige donc une colo de vacances, approuve beaucoup là. Vous avez un visage, un regard très éloquent.
Oui.
Pourquoi ?
Mais parce qu'il y a des moments charnières sur le temps de la colo, on pense au temps du coucher, où les enfants nous parlent de leur maison, de leurs parents, ils se posent eux-mêmes des questions, mais que font mes parents ? Pendant que moi, je suis ici à la colonie de vacances. Et on a des petits rituels souvent aussi pour forcer ces moments-là, parce que pour nous, ils sont importants aussi dans la sécurité affective. Alors, ça peut être sous forme de photos ou d'objets, ou sur des moments où c'est un peu compliqué pour les enfants le soir, on va forcer ces moments pour qu'ils se rappellent leurs parents, qu'ils se rappellent leur maison, pour qu'il y ait des allers-retours comme ça entre le moment de colo, mais on parle aussi de la maison, du petit frère, de la grande sœur, de la maman, et ce qui permet de faire lien entre un petit aller-retour. Mais souvent, il y a des angoisses, en effet, de se dire, les enfants, quand il y a de l'angoisse, c'est souvent parce que leurs parents ne sont pas là.
Et les affects entre enfants, alors. Mais parlez-moi, s'il vous plaît, non seulement des émois amoureux, mais de la méchanceté. Alors, l'auditeur va se dire, si ça sent le vécu, j'assume. Oui, j'ai connu dans mon enfance, je trouve, dans les colonies de vacances, des scènes cruelles, et je ne dois pas être la seule.
Il y en a, après, c'est... Alors, Elles sont gérées par les équipes d'animation, parce que être dans l'observation, c'est aussi déceler des moments. Je vais donner des exemples, par exemple, sur la notion de jeu libre, la pression sociale qu'il peut y avoir, ce qui peut être aussi des jeux qui peuvent être cruels entre enfants. Souvent, nous, nos espaces ne sont pas genrés, donc quand on est dans une salle de jeu et que les enfants jouent et qu'un petit garçon va jouer à la poupée, le rôle de l'adulte dans la notion de jeu libre, c'est de s'assurer que les autres ne vont pas se moquer de lui, parce que c'est un petit garçon qui joue à la poupée. Donc ça, c'est anticipé, par exemple, en créant des espaces où les enfants vont pouvoir, les petits garçons ou d'autres, s'ils sentent qu'il y a une pression sociale autour d'eux ou qu'il y a de la méchanceté, pouvoir aller se cacher pour pouvoir le faire de manière plus intime et de pouvoir assumer leur envie de jouer. Voilà.
Donc mais ça, on vous élevez la voix parfois quand il y a une... Ça existe, la cruauté,
oui,
entre les enfants.
Ah mais absolument.
Comment vous faites ?
Eh bien, il faut réagir tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut intervenir sur le moment. Et d'où l'importance de l'observation. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, la posture qu'ont les adultes d'être dans le laisser-faire, le faire avec ou faire à la place, c'est que quand il y a de la méchanceté, de la cruauté, du harcèlement, l'adulte doit intervenir. Il doit donner la possibilité à l'enfant de comprendre l'enjeu de ce qui se passe sur ce moment-là. Et c'est peut-être là, peut-être, l'ambition éducative.
Qui reste quand même, parce qu'au début, vous avez dit, les vacances, c'est pas l'éducation.
C'est ça, en fait. Nous, on le traduit parce que souvent, on dit que l'enfant, il y a des temps de vie quotidienne, il y a des temps d'activité. Pour nous, l'enfant est en activité de son lever jusqu'à son coucher. Le brossage de dents est aussi important qu'apprendre à jongler. Donc, concrètement, là, il faut que, clairement, nous, on se centre sur la notion éducative du vivre ensemble et d'accompagner les enfants dans ces relations humaines qui font qu'on peut vivre ensemble. Dans une grande maison, partager des règles, partager des moments de liberté, et parce que la liberté s'arrête où commence celle des autres, on voit bien que c'est souvent là qu'il y a des problèmes.
Il y a la question de l'intime aussi, les émois amoureux, c'est peut-être pas la peine d'en faire un sujet collectif, non, entre deux enfants. Jean-Marie Bataille, c'est difficile quand il y a des choses très fortes qui se passent sur le plan amoureux, entre deux adolescents par exemple, dans une colo. C'est difficile, ça, je trouve, pour les adultes. Les autres enfants rigolent, ou tout le monde est un peu gêné, puis en même temps, il n'y a pas de raison d'être gêné. C'est difficile de trouver la bonne distance, non ?
Oui, alors il y a aussi d'autres façons, au niveau pédagogique, qu'on peut développer. Il y a ce qu'on appelle les cahiers de râlage, qui est un système de médiation. Ça permet aux individus, quels qu'ils soient, enfants et adultes, de noter quelque chose qui leur a posé problème dans une relation. Mmh. Et il y a un moment qui est dédié dans un espace-temps différent, lors de ce qu'on appelle la réunion, où les enfants vont pouvoir évoquer devant les autres les difficultés qu'ils ont rencontrées dans une relation. C'est un cahier qui a été pas mal développé à l'école de la Neuville, qui était soutenu par Françoise Dolto. Et donc ça permet ensuite soit un règlement immédiat parce que un autre enfant peut dire j'avais pas compris que ça pouvait avoir ça comme effet ce que j'ai dit, mais ça peut aussi aller plus loin. Se dire qu'il y a des règles qu'on va se donner pour éviter ce genre de choses et éviter que les difficultés que ça va générer.
Céline Flécheux, on reconstruit tout, non, après. Finalement, nos souvenirs d'enfants, de vacances, alors, pourquoi sont-ils si essentiels ? On les revit chaque été. Vous avez peut-être un avis là-dessus, mais aussi, pourquoi on sélectionne en eux ? Parfois le meilleur, alors qu'il y a eu de la souffrance, parfois juste la souffrance. C'est très troublant. Et je trouve que l'été est un vrai sujet pour les souvenirs, plus que d'autres moments de l'année.
Oui, parce que dans l'été, il y a probablement une part d'expérience dans ces vacances qui est menée. Et cette expérience, elle mène à des rencontres, à des points de contact qui peuvent être agréables, désagréables, mais qui marque profondément. Donc il y a quelque chose avec l'enfance et avec ce temps des vacances qui est la virginité, la grande virginité avec laquelle on appréhende le monde. Alors elle peut se briser, mais elle peut aussi, quand on est écrivain, quand on est cinéaste, quand on fait des documentaires merveilleux comme celui de L'Île de Trésor, on peut revenir sur ces moments-là. Je pense que c'est un acte artistique très particulier, ouais. Hein, comme Stevenson, voilà, était capable de le faire, comme
l'auteur de
comme voilà, Braque était capable de le faire, voilà, comme quelques artistes, comme Benjamin est capable de le faire dans Enfance berlinoise, hein, des petits éclairages comme cela qui montrent toute cette espèce de moments enchanteurs, mais également de troubles de ce seuil que l'on passe entre soi et le monde.
Et puis, on sait que ça va se terminer, alors on l'oublie au début, hein, des vacances, c'est trop long pour beaucoup d'enfants de s'imaginer la fin. Mais la fin devient un sujet au bout d'un moment, non? D'abord après le 15 août, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais la lumière objectivement change. Et là, il s'installe quelque chose, quoi?
Ah oui, ça c'est passionnant, c'est-à-dire l'appréhension du temps entre le début et la fin des vacances, c'est la manière dont, c'est un petit peu comme quand on fait un voyage, on part très loin et il y a un moment dans le voyage où il y a un tour dans le séjour et dans le détour et où on se détourne de ce qui est, disons, en face de soi, justement, pour repenser le temps du retour qui va. Et donc, les choses apparaissent totalement différemment et le temps change, la lumière change, l'allongement du jour change, voilà. Oui. Et on est pris, là, dans un autre mouvement qui est un mouvement de retour qui commence bien avant le retour effectif.
C'est la fin, le tout dernier matin, le tout dernier. Jasmin, ne me lâche pas la main. C'est la fin, le soleil au lointain s'écroule seul dans son coin. Ne me lâche pas, je te tiens. Le dernier jour du disco, je vais le passer sur ta peau à rougir. Le dernier jour du disco, je vais l'entendre en stéréo et te dire qu'il n'y a rien de plus beau. C'est la fin.
J'arrive pas à interrompre cette chanson, je la trouve extraordinaire. En tout cas, voilà ce qu'on a choisi pour finir cette émission sur les grandes vacances d'été. Merci beaucoup Céline Flécheul, Louis Letoré, Jean-Marie Bataille. Il s'agit donc de Juliette Armanet, Le dernier jour du disco, une chanson de 2021. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il s'intéresse aux étonnants poèmes. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les poèmes sont-ils étonnants ? Dans un film magnifique sur une grande poétesse autrichienne, Ingeborg Bachmann, Margaret von Trotta, qui réalise ce film, commet peut-être une seule faute de goût. C'est, sur un pont de Paris, la rencontre entre Ingeborg Bachmann et Max Frisch, avec lequel elle va à la fois s'unir et se séparer dans une rupture très violente qui est le thème du film. Cette rencontre à Paris, sur un pont, se fait sous le signe de la poésie. Ils se lisent l'un à l'autre le poème célèbre d'Apollinaire, Le pont Mirabeau. Mais ils se le lisent finalement d'une façon convenue qui annonce peut-être leur malentendu sur la littérature, bien plus que leur union sur le poème. En effet, dans ce décor de carton-pâte, le pont Mirabeau somme comme une illustration factice et trop évidente. C'est peut-être la seule faute de goût de ce film. Alors qu'il fallait retrouver dans le pont Mirabeau, pour garder l'étonnement de la littérature, justement l'étonnement profond du poème et du poète d'abord sur le pont Mirabeau, sous le pont Mirabeau. Coule la Seine et nos amours. Ce n'est pas un poème convenu sur le passage du temps. Ce n'est pas un poème qui illustre un décor de carton-pâte parisien. C'est un poème sidérant, deux fois sidérant. Sidérant d'abord par l'émotion du poète, la surprise sur le passage du temps qui est comme le passage du fleuve, mais avec les amours qui disparaissent, et pourtant le temps et le poète lui-même qui persiste, qui résiste, les jours s'en vont, je demeure. C'est le dernier vers du poème qui ne vient pas contredire, mais dans une tension extrême, s'unir à l'émotion devant le passage irréversible du temps et du fleuve. Le poème est deux fois étonnant d'ailleurs. Il n'est pas seulement étonnant par sa surprise, la sidération, le contenu du poète devant une expérience humaine profonde, et tout poème exprime peut-être un étonnement devant une expérience humaine terrible ou joyeuse, mais il est aussi étonnant dans sa forme. Sous le pont Mirabeau coule la Seine, quoi de plus évident ? Et nos amours, quoi de plus surprenant ? Ce rapprochement du fleuve et des amours, ça semble évident et pourtant ça n'a rien à voir. Le poème est deux fois surprenant toujours, on pourrait dire sommairement sur le fond et dans sa forme, dans le sens et dans le son ou dans le langage. Cela ouvre deux voies à l'explication du poème et d'ailleurs à la poésie du XXe siècle qu'Apollinaire ouvre par ce poème et tout le recueil « Alcool ». D'un côté, la voie du surréalisme, la voie de l'image poétique pure et pour elle-même, ce rapprochement presque imaginaire et inconscient du fleuve et des amours, et ça donnera toute la poésie surréaliste, toute la grande théorie de l'image de Pierre Reverdy, par exemple. Mais d'un autre côté, comment renoncer à l'étonnement existentiel, au fait qui ouvre le poème sur la philosophie et qui oblige la philosophie à passer par le poème, à expliquer aussi ce poème, qu'on le veuille ou non, comme une grande réflexion sur le temps, sur l'expérience humaine, du temps qui passe et du temps qui demeure, de notre passage et de notre résistance au passage. Cette double ouverture vers la philosophie, qui est peut-être obligée de passer par le poème comme expression singulière et parfaite d'une émotion humaine d'un côté, et vers l'art, parce qu'il y a quelque chose d'irréductible dans la surprise formelle, dans la surprise poétique, cet accord entre deux surprises permanentes, cet accord parfait entre deux surprises, c'est cet équilibre du poème, des étonnants poèmes auxquels la philosophie doit toujours revenir.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Daphné Leblond avec à la technique Dalia. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Anna Fulpin, Carla Michel, Antoine Ravon et Nassim El Kabli. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité!